on en jase.
Je te préviens, on jase.
Oh oui, qu'on jase, et merci pour vos excellents commentaires. On en a plein. Oui, Jeff, tu es très bien entouré avec Pascal et Antonine. Vous faites un trio complémentaire et efficace. J'adore le franc-parler d'Antonine. C'est Nadine qui nous écrit ça.
Merci,
bravo à
Nadine.
Vous trois. Merci, on est tellement contents de faire de la radio avec vous. On se sent privilégiés. Chers auditeurs, merci pour vos excellents commentaires. Bon, Antonine, j'ai appris de quoi, moi?
Ah oui, quoi?
Non, j'ai appris de quoi? J'ai appris que même si on dit « Bayon »,
ouais,
même si on dit « Loi spéciale », puis même si on dit « On flanchera pas », ben, on pouvait tout organiser ça, cette loi-là.
Là, ils vont nous dire que ça a toujours été ça qui était prévu.
Ben, c'est ça que Christian Dubé nous a dit. Tantôt, là, malheureusement, j'ai pas l'extrait, mais il nous a dit « Écoutez, moi, là, je l'avais dit. » La loi 2, c'était ouvert, on pouvait renégocier.
Ouais, là, par contre, là, à un moment donné, je veux dire, la manière dont on l'a imposé, est-ce quelqu'un qui va croire ça? S'ils ont l'audace d'aller là...
Pascal, il y a personne qui croit ça, je te rassure, OK? T'en fais pas, là. T'en fais pas.
Ça m'a insulté.
T'es insulté,
ben,
là.
Moi aussi, ça m'a insulté.
T'aimes pas ça de faire prendre pour une valise?
Non, non. Écoute, ben là, en plus, parce que c'est... Je veux dire, pendant que tu me le dis, on est au courant les deux que tu me prends pour une valise.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
On
là,
fait
de,
quoi, là?
Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, le ministre de la Santé qui a déposé ce matin un projet de loi pour reporter l'entrée en vigueur de la loi 2, qu'on rappelle, comme tu disais si bien, Jeff, qui a été passé sous Bayon. Ça pressait terriblement de passer
l'enfer.
Cette loi-là il y a quelques semaines. La suspension s'applique... Oui, à la FMSQ, à la FMOQ, donc les médecins omnipraticiens, mais aussi à la FMSQ. C'est un recul. Et on va appeler les choses telles qu'elles sont. C'est un chat, OK? Il y a deux oreilles pointues, une queue, ça fait miau-miau. C'est un chat, c'est un recul. Parce que je pense qu'ils ont sous-estimé à quel point la tempête allait être énorme à la suite de l'adoption de ce projet de loi sous
Bayon. Juste hier, on avait Martin Savard, un médecin spécialiste dans Marceau le matin, qui nous disait, écoutez-moi... À l'enfant Jésus, j'ai quatre collègues qui s'accloquent.
C'est terrible. Et après ça, on peut s'interroger sur est-ce que les médecins exagèrent? Est-ce qu'ils ont déchiré leur chemise trop vite? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de parler de rémunération? Mais le résultat est le résultat. À un moment donné, on voit à tous les jours des nouvelles de cliniques qui ferment, de médecins qui veulent quitter le réseau de la santé québécois. Et l'opinion publique a dramatiquement changé de direction à la suite de tout ça. Et surtout, quand on a commencé à comprendre les anomalies, les erreurs qu'il y avait dans le projet de loi.
Oui. Bien, je vais y aller de cette façon-là. Oui, sûrement que les médecins crient pour rien. Crient pour rien en partie.
Crient trop en partie.
Par contre, quand tu es un gouvernement, tu te dois d'être celui qui va trouver les voies de passage.
C'est
Et là, le gouvernement
vrai.
N'a pas fait son travail avec son Bayon et sa loi spéciale 2. Et il a créé la crise.
Puis si tu veux enfoncer quelque chose dans la gorge à quelqu'un, t'es mieux d'être confiant, là, tu sais, que...
Ouais, de
que...
pas avoir fait d'erreur de calcul, qui fait en sorte que, comme Francis Veil, chroniqueur à la presse, nous a prouvé dans une entrevue lundi qu'un médecin omnipraticien qui atteignait les cibles passait quand même de 303 000 $ à 233 000
Moi, je trouve que cet article, en fin de semaine, là, on en parlait il y a quelques jours, je trouve que c'est le dernier clou là, dans le cercueil de cette loi-là. Ça a vraiment fini de convaincre l'opinion publique que ça ne fonctionnait pas, ce projet de loi-là. Je pense que les Québécois étaient d'accord que, un, le statu quo était plus possible, il fallait qu'on bouge quand même sur la rémunération et surtout sur l'accès. Après ça, le moyen, il faut voir. Je pense que la plupart des Québécois ne pleuraient pas beaucoup sur le sort salarial des médecins non plus, c'est l'évidence même. Mais là, quand on voit que pour faire notre omelette, on a cassé à peu près tous les œufs qui étaient disponibles, à un moment donné, il y a une limite et il y a une inquiétude aussi parce que là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On nous dit que ça rouvre les négociations, en fait. Donc là, on suspend l'application de la loi et là, il va y avoir des négociations parce que les médecins ne voulaient pas négocier tant qu'ils avaient cette loi-là. Qui, même si le gouvernement disait « Ouais, mais tu sais, là, on n'est pas obligé de l'appliquer. » Hey, elle est adoptée, la loi. Là. Puis là, regarde, pour reculer, ils sont obligés de déposer un autre projet de loi. Fait que c'est quand même, ça parle quand même beaucoup. Et là, les négociations vont s'ouvrir et on compte beaucoup sur la présidente du Conseil du Trésor. En fait, je dis la présidente du Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor. Okay? Ce n'est pas la ministre qui va négocier directement avec les fédérations de médecins. On va l'entendre plus dans les médias, Mme Duranceau. Mais c'est les équipes de négociation du Trésor. On sentait que M. Dubé, le ministre de la Santé, avait pris beaucoup de contrôle dans les négociations à partir de la fin de l'été. Et ça n'a pas porté ses fruits. Donc, est-ce que le Conseil du Trésor, lui, peut trouver des voies de passage qui auraient enfin un impact sur l'accès aux soins. Parce que c'est ça, là, à la fin de la journée, si on revient au statu quo qu'on avait avant, ça ne marche pas non plus. Là. Notre système de santé, ça ne fonctionne pas.
Du tout. Donc, il faut régler des choses, mais le faire de la bonne façon.
Ça s'est tellement fait de façon... Je vais même qualifier ça de violent, là, parce que tout le monde s'est mis à crier partout. On ne veut plus négocier. Il y en a qui quittent leur emploi,
etc. Mais
tu as raison,
c'est de la
emploi,
communication
etc.
violente.
Mais...
C'est vrai. C'est vrai.
Ça s'est tellement fait de façon violente que je me suis posé la question. Des politiciens expérimentés, des gens qui travaillent là-dessus pendant des années, Christian Dubé, qui avait bonne presse jusqu'à maintenant au niveau de ses fonctions, qui s'enfouit comme ça. Je me suis dit, crime, c'est-tu comme quand tu négocies un salaire, quand tu pitches plus haut, tu t'attends à voir plus bas. Là, ils ont tellement été coercitifs, méchants, nanana. Ouais. Là, on retourne. Fait que le prochain sera accepté parce qu'il va être moins pire.
En négociation, là, c'est vrai que des fois, tu vas viser un peu plus haut pour atterrir un petit peu plus bas. On est d'accord avec ça. Par contre, je veux dire, il faut que le canal de communication demeure ouvert. Ouais. Il faut qu'on sente qu'on veut du gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Et c'est un petit peu dans la manière, je pense, que ça s'est passé, que ça a vraiment brûlé les ponts, finalement. Puis je crois sincèrement que les médecins ont leur part de responsabilité là-dedans, oui. En passant là. Christian Dubé n'a pas tous les torts de l'univers. C'est pas facile de négocier avec les médecins. Ils n'ont pas toujours, énormément d'ouverture. Ils ont beaucoup de pouvoir aussi. Hein? On le voit, là, ils ne sont pas contents. Puis ça va avoir des impacts pendant longtemps. Parce que ça, c'est l'autre élément. C'est que malheureusement, là, c'est une bonne nouvelle. On va l'accueillir. Et que les négociations recommencent. Mais je veux juste vous dire que rien n'est réglé et que les impacts qu'on a vus, je ne suis pas sûre que toutes les cliniques qui ont dit qu'elles allaient fermer, tous les médecins qui ont dit qu'elles allaient quitter, tout va être annulé. Là. Il y a des gens qui vont dire « Hey, nous, là, on ne revient plus en arrière. » Genre, ça suffit, ça ne nous intéresse plus de travailler dans un réseau de la santé. Et ce que vous allez entendre beaucoup, c'est « qui ne nous respecte pas ».
En effet, mais c'est ça le point des médecins, c'est que la loi 2, ils l'ont senti comme quelque chose d'irrespectueux. Puis Pascal, je te pose la question, je m'en viens t'imposer 14 conditions aujourd'hui. Tu vas peut-être dire, ouais, Jeff, on n'aura pas pu s'en parler, il me semble que c'est cavalier ton affaire.
Mais surtout de la façon dont ça a été fait. Puis tu sais, moi, je me demande pour la suite des choses si les médecins vont vraiment être ouverts à renégocier. Mm-hmm. En plus, ils ont gagné ce bout de terrain-là en disant, ben quand même, on arrête tout.
Ben c'est un bon point, Pascal. Là, il faut qu'eux fassent leur bout de chemin. Maintenant, montrer de la bonne foi.
Ça, c'est vrai.
On veut de l'accès. Puis, tu sais, à un moment donné, sortir le chéquier, on l'a fait beaucoup, là. Maintenant, on fait quoi, là? Vous demandez plus de ressources pour pouvoir opérer davantage, plus d'autres professionnels de la santé? Parfait. Maintenant, de l'autre côté, il faut que vous lâchiez du lousse aussi. Il faut que vous laissiez les autres professionnels travailler. Il faut que vous compreniez qu'on a une capacité de payer à un moment donné qui n'est pas infinie. Donc, il faut qu'ils fassent leur bout de chemin. Donc, là, le gouvernement prend un coup politique. Mais il fait son pas en avant. Maintenant, c'est aux médecins de faire leur pas en avant.
418-971-1021 pour réagir. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jean-Michel nous écrit qui va partir en premier, François ou Pablo?
Ben, je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste.
François!
Ben, c'est tellement du François Legault, ça!
Non, mais c'est comme ça. Moi, je me lève le matin, puis là, je dis qu'est-ce que je ferais bien? Alors, je pars. Puis là, surtout quand il y a de la petite neige comme ça dehors, je vais en prendre une marche dans la neige. Et là, je reviens, je dis à ma blonde, bon, je vais vider le lave-vaisselle.
Ça te met de bonne humeur, puis ça te met dans des bonnes dispositions. Mais justement, quand il y a une belle petite neige comme ça, puis que c'est beau, puis que c'est juste avant Noël, puis que c'est la magie de hivernale et tout ça, probablement que ça l'a inspiré à continuer, ça l'a mis de bonne humeur. Mettons qu'il y avait, tu sais, des fois en décembre, il y a comme une espèce de pluie froide, dégoûtante, là. Hein? Là, il serait allé prendre sa marche sous la pluie, il aurait dit
non, fini.
C'est de la merde, la vie politique, je suis plus capable. Chaque mot calme. Moi, je pense que c'est de la faute de la météo.
C'est la météo qui garde François Legault là ou l'espoir que la débandade du Parti libéral avec le fait qu'on n'en veut pas de méchant référendum, même s'il était souverainiste pendant à peu près toute sa carrière politique. D'ailleurs, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas crédible. Lui et Bernard Drainville, dans la dernière semaine, là, les deux capitaines Canada... Là.
Ben Jeff, moi, j'ai trouvé François Legault plus souverainiste que Bernard Drainville.
Vas-y, dis-moi ça.
Parce que François Legault a fait une vaste tournée d'entrevues récemment. Mm-hmm. Vous savez, il s'en vient vous voir aussi. Oh, puis j'ai coupé quelque chose. Ah, là, il s'en vient pas, il n'a rien dit. Bye-bye. François Legault qui fait une vaste tournée d'entrevues. Et évidemment, il se fait poser la question, parce qu'on est dans une année où on parle beaucoup, beaucoup de référendums. Il n'a pas dit qu'il allait voter non, là.
T'as raison.
Mais il l'a déjà dit. Ouais. Il l'a déjà dit à d'autres moments, mais là, il laisse un peu planer.
C'est juste
alors
que
Bernard
Drainville. Ouais, Bernard Drainville va voter non parce qu'il veut l'argent du fédéral pour des contrats à des vies.
T'sais, fait que j'ai trouvé que Bernard Drainville était allé beaucoup plus loin. Mais sur la réflexion de François Legault, t'sais, l'aiguille n'a pas bougé. Je veux juste revenir sur sa grande séquence là, de l'automne. Donc, il y avait l'élection partielle dans Arthabasca. C'était un mauvais bout à passer pour la CAQ. Très bien. Donc, on attend après ça. Pourquoi? Pour faire un remaniement ministériel. Là, on fait un remaniement. On fait un discours d'ouverture. On décide de faire une nouvelle vision économique. Là. Il a présenté un grand PowerPoint. Mm-hmm. Là, c'est lui qui a tout fait les tournées d'entrevue encore une fois. Très, très motivé.
Avec un drapeau à combien d'argent?
Ben, ça a coûté quand même un petit peu d'argent, cette opération de communication-là.
1 500 $ le drapeau, 55 000 pour présenter une vision économique.
Écoute, il faut ce qu'il faut, Jeff, là,
ouais,
pour sauver
là,
le solde.
Moi, j'ai déjà présenté des plans d'action d'entreprise. J'ai un PowerPoint sur un écran, ça coûte zéro.
Ah, t'es pas premier ministre. Là. Lui, gère toute l'économie du Québec, là, Jeff. Là. Come on, là. 50 000 pour sauver l'économie du Québec.
Ouais, t'as raison, série.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous a fait? Un festival de projets de loi, ça a pété de partout. Là. J'en ferai pas la liste parce qu'il faut que ce caucus-là finisse à un moment donné. Et l'aiguille n'a pas bougé dans les sondages. Et on voyait le temps des fêtes comme une espèce de moment où il allait prendre une décision, une fenêtre qui allait s'ouvrir parce que, à un moment donné, si tu décides de t'en aller, il faut que ton parti choisisse un autre chef. C'est drôle, hein, d'avoir deux partis dans les mêmes réflexions.
Ouais.
Je veux juste vous dire... Ça m'a fait. Je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que deux chefs de parti majeur ont été
ça,
autant dans le chenoute
sur
le bord de la porte? Bien, en fait, si on se rapporte en 2011, Jean Charest, ça n'allait pas très bien à l'époque, premier ministre du Québec, il était dans les affaires de corruption, justement, il était en pré-Charbonneau, il venait de créer l'UPAC, ça brassait quand même. Et de l'autre côté, tu avais Pauline Marois qui était dans une crise aiguë. Là c'était des députés qui s'en allaient, il y avait des nouveaux partis qui se créaient.
La crise du centre Vidéotron.
Tout ça à cause que le PQ a voulu aider à construire un centre Vidéotron.
Tout ça parce qu'on voulait nos Nordiques.
Ben oui, puis on les a pas eu. Donc, il y avait deux chefs de parti qui étaient vraiment en crise, mais il n'y avait pas un autre parti qui était premier dans les sondages. Là, en ce moment, on a le PQ qui pendant que les deux sont dans la chenoute, cumule. Donc là, c'était un peu différent comme dynamique. Mais vraiment, François Legault, qui, on pensait pendant le temps des fêtes, peut-être prendrait sa marche dans la neige, nous a dit que c'est déjà fait. Il l'a fait, sa marche dans la neige. Et donc, là, la rumeur qui court, c'est que le prochain deadline, la prochaine fenêtre qui s'ouvrirait, ce serait au printemps.
Mm-hmm.
Là, c'est vraiment la dernière.
Ben non, c'est ça. Mais là, au printemps, c'est parce que c'est proche. Hein,
c'est trop près.
De l'élection. Ben, tu sais,
tout le monde est bien marqué par Mark Carney.
Ouais,
mais les libéraux ont réussi au fédéral.
Ouais, je vais t'en dire la même affaire que je t'ai dit. Moi, je suis marqué par Kamala Harris.
Eh oui, quel bon exemple.
Ah, mais Kamala Harris, ça n'a pas fonctionné. Donald Trump est rentré comme un train aux États-Unis.
C'est pas infaillible. Mais elle était quand même compétitive. T'sais. Là, la CAQ, est-ce qu'elle. Je veux dire, dans les projections de Québec 125, l'agrégateur de sondage, on est de 0 à 3 sièges pour la CAQ.
Là,
fait que tu te dis, s'il pouvait aller chercher 15 sièges, ce serait déjà ça, non?
Merci à Lisette, parce que pour l'histoire, c'est un petit clin d'œil à Pierre-Éliott Trudeau qui avait pris une marche sous la neige avant de décider de quitter. Alors, quand François Legault a dit, je suis allé prendre une marche dans la neige, le monde se sont dit, il annonce qu'il part.
Exact.
Mais non, il n'est pas parti.
Il n'a pas pris la même décision que Pierre-Éliott Trudeau à l'époque.
Antoine Niacarini, je te souhaite des excellentes vacances parce que tu vas être en vacances.
Je pars en vacances. Mais là, j'aimerais que les politiciens se calment, par contre, parce que j'ai besoin de vacances. Est-ce que vous pensez que ça va arriver?
Non.
Profite-en bien, toi, par exemple.
Exactement. Profite de tes vacances. Victor Henriquez va être là avec nous la semaine prochaine, à midi, pour
vous
le caucus.
Vous êtes gâtés parce que Victor, il est vraiment super.
Exactement. Et il sera également là dans la semaine du 5 janvier parce que toi, tu reviens dans la semaine du 12 janvier.
Si vous faites le calcul, c'est quand même des longues vacances.
Tu fais bien.
Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances.
Exactement. Tu fais très, très, très bien. Comme les auditeurs l'ont écrit, c'est un bonheur. On est choyé de t'avoir à chaque jour du
Absolument.
Lundi au jeudi à midi pour le caucus Iacarini. Merci de faire partie de cette belle équipe de On en jase. Là, Pascal, il faut que je te dise quelque chose.
Dis-moi.
Journée de sondage, on peut pas trop se plaindre de nos boss, je pense. Hein? Il faut leur dire qu'on les aime parce que.
Ben moi, je prends de l'honnêteté en tout temps.
OK. Mais là, c'est parce que j'arrête.
Ça, j'appelle ça de l'hypocrisie.
J'arrête pas de texter Steven Croiteau, notre directeur de la programmation, en disant rentre, on fera pas de pause.
Mais je l'ai vu faire les 100 pas
de
devant la porte.
Viens.
Je vais aller chercher personnellement.
Je peux y aller, moi, je sors, de toute façon.
Moi,
je vais
Antonine
aller
va aller nous chercher. En attendant, tu fais-tu 2-3 manchettes, Pascal Séré? T'es-tu prête? Qu'est-ce que t'en penses?
Je peux bien
parce
faire.
Parce que sinon,
ça.
Je peux te parler de Jacob Fowler. Hey, le jeune gardien de but de 21 ans va garder but pour le Canadien ce soir contre les Pingouins. Tiens, 418-971-102. Est-ce que Jacob Fowler gagne son premier match ce soir pendant que Pascal nous fait les manchettes? Répondez à ça.
En manchette, excusez-moi, je viens de voir un fantôme arriver en studio. Bonjour Max, félicitations. Max a failli tomber pendant que Steven a ouvert la porte du studio.
Oui, Max a eu des très bons chiffres. Pour le point de Max, on a eu des bons chiffres le matin. Steven s'installe pour nous jaser de ça. 2-3 manchettes, Pascal. En attendant, dites-moi, Fallard, gagne-tu à soir? Fais-tu mentir, Max Larouche? 418-971-1021.
Pendant que ça grouille au provincial, on peut parler du municipal. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est dans les dernières discussions entre Bruno Marchand, maire de Québec, et le premier ministre François Legault, c'est l'immigration qui prônait. Hein? Et là, on dit croire les promesses de François Legault en matière d'immigration au niveau de Bruno Marchand. On a invité le ministre Jean-François Roberge aussi à appliquer la parole du premier ministre dans ce dossier-là. Ce n'est pas de régime municipal de s'occuper de l'immigration. L'affaire, c'est que ça déborde maintenant dans les territoires des municipalités, comme quoi on accueille des gens, on les inclut dans notre société, mais on n'a pas les ressources pour le faire. On déplorait les conséquences inhumaines d'un changement gouvernemental aux règles d'immigration dernièrement. Donc, en fin de journée, hier, le premier ministre a ajouté son grain de sel. Il a soutenu qu'on était ouvert à prendre tous les immigrants, les 13 100 immigrants temporaires de Québec en dehors de Montréal et Laval, qu'il n'y avait pas d'enjeu, qu'on allait revoir leurs papiers. Et même, il a été invité à commenter le rebondissement en fait que Bruno Marchand avait créé en disant « Là, faites quelque chose au niveau provincial et on va travailler de pair. » C'est ce qu'on attend au niveau du provincial et du moins de la ville de Québec. Ce serait la bonne nouvelle en ce sens-là, si jamais tout le monde fait ce qu'il a dit qu'il allait faire dans ces dossiers-là.
Exactement, parce qu'il faut vraiment garder des gens qui sont ici bien établis. Puis là, je parle de la région de Québec, mais c'est dans d'autres régions, et qui contribuent à l'économie. On a plein d'exemples. C'est 13 000 personnes présentement dans la région de la capitale nationale, oui. Pascal, qui pourraient devoir quitter la ville de Québec. C'est tous des gens qui travaillent, qui ont leur famille, qui sont établis ici, qui payent des taxes, qui payent des impôts. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça prend une clause grand-père pour ces gens-là.
Je nomme rapidement que le budget 2026 de la Ville de Québec a été largement voté en faveur de ce qu'on proposait. Êtes-vous surpris? L'opposition de 3 conseillers municipaux de respect citoyen seuls...
Ben voyons, ils
n'ont
pas voté les 18 pour le budget.
Oui, le reste était un petit vent de face, là, face au budget, mais non. C'est passé très fortement ici à la Ville de Québec. Sinon, en tente de principe, je ne vous parle pas de celle des médecins, je vous parle du 60% de hausse salariale pour les pilotes de Transat.
Ouais.
Vous partiez en vacances, vous étiez inquiet par les coupures, par la grève qui s'en venait. Bien, on a évité la grève et les pilotes d'Air Transat ont eu leur dû, celui qu'ils réclamaient du moins. On pense que la situation financière de Transat ne permettait pas d'aller en grève, que c'était moins cher d'aller donner ce que les pilotes souhaitaient. Je vais terminer pour la Ville de Québec avec un retour sur l'arrestation qu'on avait dite musclée de Pacifique Niokouzera. On abandonne la poursuite contre la police. C'était celle de Niokouzera et sa famille. Rappelez-vous, on est en 2021. On est sur Grande Allée. La fête bat son plein et là, intervention policière, assez cossu, merci. On ramasse une bande de jeunes. Dans cette bande de jeunes-là, il y a Niokouzera. Il est au sol, on lui envoie de la neige et c'est ça qui est capté par les caméras. Mais à ce moment-là, on ne connaît pas le pedigree CV du jeune. Il est mineur, on a peu d'informations. Tout tombe sur le dos des policiers en disant « Hey, quelle agression
en effet.
Inhumaine envers ces jeunes-là ». Voilà pourquoi ça s'est ramassé en cours. À ce moment-là, on croyait avoir une cause. On réclamait 180 000 $ à la Ville de Québec et 4 de ses policiers au niveau de Pacifique, Niokouzera et sa famille. On alléguait une arrestation injustifiée sur fond de racisme, chose qui est tombée parce qu'on se désiste. On n'a pas de commentaires, mais on a décidé de laisser tomber tout cela dans les dernières heures. Et somme toute, nous, on a appris plein de choses sur le jeune homme. Possession de drogue et d'armes à feu, etc. C'était loin d'être un CV pour une belle-mère.
C'était loin d'être un enfant de cœur, en effet. On a Steven Croiteau, directeur de la programmation ici à Boulevard et à Leclerc Communication avec nous en studio. Steven, comment vas-tu?
Salut, merci de me recevoir. C'est la première fois que je viens dans
Jase. C'est la première fois.
Exact.
Ah, tu vas peut-être y prendre goût.
Peut-être. Je le souhaite.
Steven, belle journée pour Leclerc Communication, belle journée pour la station Boulevard 101 dans cette journée de sondage numériste. C'est le fun parce qu'on avait fait un virage très important l'automne, c'est-à-dire celui d'être 100% parlé entre 6h le matin et 19h le soir du lundi au vendredi. Ça va bien?
Oui, ça va bien. C'est un sondage qui couvre novembre 2024 à novembre 2025. Fait que c'est quand même un an de sondage. Je ne veux pas perdre les auditeurs trop dans les chiffres. J'ai quelques faits saillants que je voulais partager. Puis je voulais surtout profiter de la tribune pour remercier les auditeurs. Je pense qu'ultimement, c'est la base. Merci de choisir Boulevard. Merci de choisir une radio locale. On est 100% des employés qui travaillons ici, là, au 815 de Bourgneuf, mais qui vivons à Québec. On fait cette radio-là par et pour Québec. Puis de voir qu'on est en croissance au niveau du nombre d'auditeurs qui écoutent la station. d'action depuis un an. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est ça la plus grosse nouvelle, là, c'est que Boulevard est la radio en plus forte croissance à Québec cet automne. On passe de, en moyenne, par semaine, 54 000 auditeurs à 66 000. C'est 12 000 de plus. Fait que pour nous autres, c'est signe, dans le fond, que la station va bien. C'est un beau...
Un méchant show rock, 12 000 de plus, quand
ouais,
même.
Oui, quand même. Ouais.
On vient de remplir un centre Vidéotron.
En moyenne, par semaine. Ça veut dire qu'il y a des semaines qu'il y en a plus, il y a des semaines qu'il y en a moins. Puis c'est vraiment une moyenne annuelle, annualisée, dans le fond, sur un an. Fait que ça, c'est des données tangibles. Puis on dirait que c'est un saut d'approbation de la part des auditeurs de Québec sur la nouvelle formule. On sait qu'on l'a changé. On nous a dit, faites-nous confiance. On arrive avec une formule 100% parlée à compter de septembre. Qu'il y ait plus d'auditeurs que jamais qui écoutent cette station-là. Pour nous, c'est vraiment le fun puis rassurant.
Est-ce qu'on va devoir faire plus attention à ce qu'on dit ou vous allez encore écrire nos scripts d'avance sur tous nos commentaires?
On va continuer à écrire tout ce que tu penses, Pascal. Mais non, mais...
on fait des farces, mais c'est parce que des fois, des gens pensent ça. Oui, mais ici, on est tellement libre de dire ce qu'on veut. Clairement. Puis c'est la beauté de la radio d'opinion et du commentaire qu'on a maintenant à Boulevard 102.1.
Puis ça a toujours été la façon de faire de Leclerc Communication. Notre philosophie, ça a toujours été, on va mettre un cadre, un terrain de... un carré de sable, dans le fond, pour nos animateurs. Voici les balises, voici sensiblement ce qu'on souhaite, voici notre vision, mais amusez-vous. Puis on reste convaincu que l'artisan de radio, c'est-à-dire vous allez donner votre meilleur puis votre plein potentiel si vous êtes libre, si vous faites vos shows avec cœur, avec passion, mm-hmm. et non pas avec un agenda, par exemple. Puis il y a un deuxième volet à tout ça qui est hyper important, puis c'est celui des clients. Tu sais, on a notre campagne de vœux de Noël qu'on fait au mois d'octobre. Vous commencez à entendre les messages cette semaine à Boulevard. Quand vous encouragez un client qui place à Boulevard, c'est toute l'économie puis la vitalité économique, la ville que vous encouragez, parce que c'est des clients qui décident d'investir chez nous dans un média local à Québec. Puis ici, la campagne marche, bien c'est le fun pour nous autres, c'est le fun pour toute notre ville, pour notre industrie, puis surtout pour les médias de la ville de Québec. On est un des rares médias 100% opérés et gérés par des gens de Québec. Ça, c'est une de nos grandes fiertés. Puis les objectifs de Boulevard vont vraiment bien depuis le début de l'année, depuis septembre. On sent là aussi un beau vent là, de la part des commerçants de la ville de Québec qui nous font confiance. Puis évidemment, nos employés, là, on veut remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas nécessairement au micro comme toi, Jeff, comme toi, Pascal, mais qui travaillent excessivement fort à faire rayonner, que ce soit les gens au routage qui placent la publicité, les rédacteurs.